Voilà, c'est quand même... On commence. Donc c'est le cours, oui, ce soir c'est le cours de liturgie, enfin deux cours de liturgie en fait, puisque comme il y a 2 heures, j'ai pensé que c'était plus intéressant de faire de suivre deux thèmes différents. Donc la première heure, de 20h à 21h, c'est la présentation de la réflexion de Maxime Kowalewski sur les principes de la liturgie. Et le deuxième cours, après ça, de 21h à 22h, c'est la présentation du typicon de l'Église orthodoxe, enfin, principalement de l'Église roumaine, voilà, je le présente en le commentant. Donc, cette première heure, c'est donc consacrée à Maxime Kowalewski. Je n'en reparle pas parce que j'ai déjà fait la présentation de cette personnalité la fois précédente. Et la bibliographie qui avait été donnée, c'est la même. Donc, j'utilise toujours un livre qui s'appelle « Retrouver la source oubliée », qui était publié à Paris en 1980, je crois. 1984, pardon. Et qui, j'ai vu qu'on le retrouve un petit peu encore. On doit pouvoir le trouver quand même sur Amazon ou sur certaines librairies comme ça de vente par correspondance. Mais ce sera réédité forcément un jour ou l'autre, ces textes-là. Donc, la fois précédente, elle avait présenté... Mon idée, si vous voulez, par rapport à Maxime Kowalewski, ce n'est pas de l'imposer à qui que ce soit, parce qu'en fait, en ce qui concerne son travail proprement musical, on peut avoir des opinions différentes. Il y a des personnes qui pensent que c'est intéressant, mais que ce n'est pas vraiment adaptable, qui pensent qu'on ferait mieux de suivre les tons byzantins pour toutes les paroisses, en français, en roumain, et en grec, etc. Bon, donc on peut discuter, on peut avoir des opinions différentes concernant la musique, les musiques, les mélodies, etc. Bon, ça, bon. Mais ce qui est intéressant chez Maxime Kowalewski, c'est le fait qu'il a mis en valeur, en lumière, les principes de la liturgie, pas seulement de la musique liturgique, parce que j'y viendrai quand même, mais de la liturgie elle-même. Et ces principes qui sont des principes de base dont nous avons besoin pour savoir ce que nous faisons quand nous célébrons, quand nous réunissons pour nous livrer à l'activité principale des chrétiens, qui est l'activité de célébration, l'activité sacerdotale, en fait, qui est celle des chrétiens. Donc la dernière fois, j'avais mis en avant un thème qui est très important chez ce liturgiste, qui était le thème de la présence et écoute. Donc, je vais parler de ça un petit peu. Bon, bien sûr, je m'appuie sur ces textes, je le cite, mais je développe aussi cette idée de présence. Évidemment, je peux revenir un petit peu pour faire transition. C'est que ça n'a l'air de rien, mais il ne s'agit pas évidemment d'une présence physique. J'avais dit quand même que la présence de la liturgie est absolument indispensable, que l'absentéisme liturgique est une véritable catastrophe, non seulement parce que ça affaiblit la communauté, que la communauté finit par devenir une espèce de communauté fantôme qui représente à peu près 10% des fidèles effectivement baptisés. Donc c'est embêtant, c'est une communauté qui finit par ne plus être représentative. Mais l'autre inconvénient, c'est que le fait de ne pas être présent, eh bien on ne peut pas, on ne peut pas jouer son rôle de transmetteur de la vérité. C'est ça, quelqu'un qui n'est pas là n'a pas vécu ce qui était à vivre et donc ne sait pas, même s'il l'apprend ailleurs, je l'avais dit ça, même s'il l'apprend ensuite, qu'on lui envoie des photos, qu'on lui envoie des comptes rendus, ben oui, mais il n'y était pas, donc il n'a pas contribué à fabriquer l'événement, il n'a pas apporté sa part de créativité et il n'a pas apporté sa part de mémoire de l'événement. Donc ça, c'est comme ça, si vous voulez, on peut, c'est que notre relation à l'histoire universelle est un petit peu de cette nature. On peut lire tous les livres qu'on veut sur, je sais pas, par exemple, la prise de la Bastille. Oui, mais enfin bon, si vous n'y étiez pas, ça n'a absolument aucun rapport. Il y a des livres très intéressants sur la prise de la Bastille, mais enfin, ça, rien ne remplacera le fait d'y avoir été d'avoir été donc présent. Alors la notion de présence, c'est vraiment une notion très 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 importante et qui n'est pas seulement une notion anthropologique, au sens où, au fond, le charisme de l'homme dans la création, c'est justement un charisme de présence. Mais parce que justement, il est présent, mais il n'est pas présent comme sont les animaux, parce que les animaux sont présents, par exemple, à Bethléem, dans la crèche, bon, il y a des animaux qui sont présents, il y a un bœuf, il y a un âne, il y a peut-être d'autres animaux aussi, il y a les moutons des bergers, bon, alors les animaux sont présents, mais enfin, si vous voulez, la qualité de présence d'un animal n'est pas exactement ce dont nous parlons. L'être humain a une façon d'être présent, qui est une présence consciente, une présence attentive, une présence disponible, une présence créatrice, une présence interactive aussi, et donc une présence qui ressemble beaucoup à la façon qui est celle de Dieu d'être présent. En fait, le grand présent, le grand présent avec un grand P, c'est tout de même la divinité. On parle de parousie, parousia. En grec, c'est très intéressant, la notion de parousie, c'est la notion de présence divine dans le monde, alors dès l'origine, pendant toute l'histoire, et en plus à la fin des temps. Mais cette parousie divine, elle a lieu dans chaque célébration liturgique, elle a lieu dans chaque prière que nous adressons, à chaque fois que son nom est invoqué en particulier, chaque fois qu'on doit arrêter de prier, à chaque fois qu'on invoque son nom, eh bien, c'est pas qu'on ne le rend pas présent, parce que Dieu n'est pas, comment dire, il n'est pas à nos ordres pour répondre présent quand on dit « Dieu, es-tu là ?» par exemple. Bon, il ne s'agit pas exactement de ça, mais il s'agit du fait que quand nous invoquons le nom de Dieu, nous ne le rendons pas présent, mais nous attestons sa présence et nous devenons présents à sa présence. Alors il y a quelque chose qui est très très important ici, vous voyez, que tout le monde sait, c'est un petit peu du bon sens, mais pour la parousie divine, je ne sais pas qu'elle a besoin, parce que Dieu n'a besoin de rien, mais disons, est glorifiée, disons, par la présence humaine qui la reconnaît. Et nous reconnaissons la présence de Dieu en étant nous-mêmes présents. Et Maxime Kovalevski insiste sur le fait que la présence permet surtout l'écoute. Ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que là, c'est par la présence qu'on est complètement disponible à recevoir la parole de Dieu, à entendre ce que Dieu a à nous dire. C'est quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez. C'est un peuple extraordinaire que le peuple, ce qu'on a appelé après ça le peuple d'Israël, c'est pas toujours appelé Israël, comme vous savez, le peuple d'Israël, le peuple juif, le peuple hébreu, le peuple de Dieu. C'est un peuple extraordinaire, parce que c'est un peuple qui se rend présent pour écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, oui, c'est... Bon. Donc c'était ça le thème de présence et écoute. Alors, on peut y revenir éventuellement si c'est nécessaire, pas non plus passer des heures sur les mêmes thèmes. L'autre thème qui va avec ce premier thème, donc, que je voudrais présenter ce soir, qui est chez Maxime Kovalevski, c'est le thème de l'écoute, toujours, mais l'écoute liée à l'assimilation. Assimilation. Alors, c'est un mot très très important, parce que, là aussi, on peut passer du temps à voir qu'est-ce qu'on entend par là. Il est évident que le mot assimilation nous fait penser quand même beaucoup à la façon dont nous nourrissons. Hein, l'alimentation, la boisson, la nourriture, sont des modes d'assimilation des produits naturels, enfin, plus ou moins bio, de produits, disons, qui, parce que nous les assimilons, nous communiquent leur énergie et nous permettent d'être vivants, de nous tenir debout et d'être en bonne santé, etc. Donc il y a l'assimilation, c'est effectivement s'approprier les propriétés. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis là, mais enfin, non. Oui, s'approprier les propriétés. Ben si, ça fait un vilain jeu de mots, mais si, parce que les propriétés d'un autre deviennent, par l'appropriation, deviennent mes propriétés. Donc l'appropriation, c'est prendre pour soi les propriétés d'autrui. Et cette appropriation, elle se fait dans le dialogue avec le prochain, elle se fait dans le couple, dans un couple qui s'aime véritablement, chacun des conjoints s'approprie quelque chose de l'autre à force de vivre ensemble et de communier dans les mêmes goûts, les mêmes véhicules, les mêmes projets. C'est dans une communauté aussi, nous nous approprions beaucoup de particularités, de qualités les uns des autres, et en particulier, nous nous approprions les qualités divines. Alors ça, c'est, moi j'ai envie de partir sur un texte, sur un thème dogmatique, évidemment, qui est l'union des natures divines et humaines dans le Christ, dans la personne divine du Christ. Eh bien, cette union se caractérise justement par une appropriation mutuelle des attributs. C'est-à-dire que la divinité s'approprie l'humanité et l'humanité s'approprie la divinité. Donc, l'idée d'appropriation est vraiment très, très, très importante. Et en plus, dans approprier, il y a l'idée de, je pense, de proximité aussi, d'approche. Et au fond, on peut s'approprier la qualité de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire s'enrichir des vertus, des dons, des charismes d'autrui, et particulièrement de Dieu. On ne peut s'en enrichir qu'en s'en approchant. Par la proximité, par le fait de mettre ses pieds là où il a marché, de s'asseoir près du maître, comme Marie dans l'évangile, cette Marie qui est assise auprès du maître, ben, elle s'assied là tout près, jusqu'à peut-être toucher le maître, parce qu'il va parler, et quand il parle, elle va s'approprier son message, l'idée d'appropriation va avec l'idée d'assimilation aussi. Assimiler, c'est rendre semblable à. C'est soit rendre quelque chose semblable à moi, je m'assimile un message, une information, une connaissance, je finis par assimiler, ou une langue, on parlait tout à l'heure, Corinna a parlé de la langue roumaine, par exemple, je vais assimiler la langue roumaine, c'est-à-dire si je l'assimile, elle va devenir vraiment à moi. Donc il s'agit bien d'un phénomène d'appropriation. Je me l'assimile, elle devient semblable à moi, mais je deviens semblable à elle aussi, hein, parce que dans l'assimilation, il y a une réciprocité. Donc en fait, c'est un phénomène de communion. Dans le fond, et ça, Maxime Kowalewski ne le développe pas dans ce livre-là, il n'a pas le temps, mais il faut comprendre ça, il faut comprendre que l'idée d'assimilation, l'idée d'appropriation, elle est essentiellement une idée christologique et essentiellement une idée eucharistique. Une idée eucharistique, ça arrive incontestablement. Dans l'Eucharistie, il y a appropriation mutuelle et assimilation mutuelle de la divinité et de l'humanité, ou de la personne divine et de la personne humaine. Et ça se fait justement par la réalité de la parole. C'est ça que souligne Maxime Kowalewski. Qu'est-ce qu'on assimile? C'est la parole. Qu'est-ce qu'on s'approprie? C'est la parole de Dieu. Et donc l'écoute, le but de l'écoute dans la relation que nous avons avec Dieu, comme avec toute autre personne d'ailleurs, c'est simplement qu'avec Dieu ça prend une dimension tout à fait extraordinaire, parce que Dieu est la personne suprême, est une vraie personne, alors que les prochains que nous côtoyons sont des personnes, ont souvent des personnalités, des individus plus ou moins libérés de leurs passions. Il y a très peu de personnes qui sont des personnes, si je peux dire. Les saints, à la rigueur, les saints qui sont vraiment devenus des personnes, qui sont réalisées en tant qu'hypostases créées, bon, c'est quand même pas, ça ne court pas les rues, si je peux dire. Enfin, de toute façon, c'est le phénomène d'assimilation, c'est par la parole, c'est parce que nous disent nos proches, le prochain, ça peut être le conjoint, ça peut être le frère de la communauté, ça peut être celui qui enseigne dans l'église, ça peut être, nos voisins, il y a des tas de personnes qui finalement nous disent, nous prononcent des paroles, nous donnent des conseils, nous racontent une histoire, ou nous expriment leur souffrance, ou expriment leur joie, et comme nous sommes proches de ces personnes-là, nous nous approprions leur message à travers leurs paroles. Donc l'assimilation et l'appropriation, c'est un phénomène qui est lié principalement au fait que autrui, ça c'est moi qui développe ça, c'est pas dans Maxime Kowalewski, mais que autrui, c'est peut-être plutôt chez Perstanello et qu'on va trouver ce genre de message, autrui a toujours quelque chose à dire. Et même un proche, un autrui, un prochain qui serait muet, il aurait des choses à nous dire par ses gestes, par son visage, par ses yeux, par l'expression de son corps. De toute façon, l'être humain parle, même s'il ne parle pas de manière avec le langage articulé, ce qui est le cas de certaines personnes handicapées, il parle avec son corps, il se débrouille toujours, l'être humain se débrouille toujours pour parler, parce que c'est ça, la force de l'être humain, c'est d'être un être de parole, comme Dieu. comme Dieu. Et Dieu, c'est pareil. Dieu ne prononce pas seulement des paroles articulées par l'intermédiaire des prophètes, mais Dieu parle aussi par la création, par l'histoire, par les situations, par les événements. Et principalement, quand même, par la parole, pas la parole écrite, mais la parole parlée, si je peux dire, par lui-même dans l'Évangile, ou par les prophètes. Cette parole très 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 directe, qui est sa parole à lui, et qui nous reconnaissons comme étant sa parole, dans laquelle il s'exprime, il se fait connaître, il est identifiable. Et cette parole-là, nous l'assimilons, nous pouvons l'assimiler, nous pouvons l'approprier, mais en nous l'assimilant et en nous l'appropriant, c'est lui que nous nous approprions, c'est lui que nous assimilons. Alors là, il y a quelque chose qui est assez important. C'est, d'ailleurs, dans le phénomène de l'assimilation de la parole de Dieu, c'est qu'en fait, on assimile la parole, mais on n'assimile pas seulement la parole, on assimile celui qui parle. C'est-à-dire, dans la communion eucharistique, puisqu'il s'agit, je le dis, d'un mystère eucharistique, je pense, c'est moi qui insiste là-dessus, parce qu'au fond, je présente Maxime Kowalewski, mais je développe... commentaires théologiques qui me paraissent importants. Celui qui assimile la parole, il assimile aussi celui qui parle. Et quand nous nourrissons de la parole de Dieu dans l'Eucharistie, nous nourrissons de celui qui parle. Le Christ dit, il dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, c'est moi, dit la parole, qu'il absorbe. Donc nous ne buvons pas seulement le sang très précieux du Christ, nous ne mangeons pas seulement le corps très précieux, très pur du Christ, mais nous nous alimentons de lui. De lui. C'est lui-même qui vient en nous. Il n'est pas détaché de son sang ou de son corps, il vient en nous et nous l'assimilons sans nous identifier, pourtant, sans nous confondre avec lui, mais nous l'assimilons autant que nous pouvons, autant que notre foi le permet, autant que la préparation spirituelle que nous pouvons avoir le permet. Donc il y a quelque chose qui est très important. Et ça se fait par l'écoute. C'est vrai que c'est pour ça que la liturgie telle qu'elle est construite, la liturgie traditionnelle, la forme qu'on retrouve encore, même dans les liturgies très modernisées qui se sont développées depuis Vatican II, par exemple, on retrouve quand même la structure, ce que nos amis appellent liturgie de la parole et liturgie des fidèles. Nous appelons ça la liturgie des catéchumènes et liturgie des fidèles. Mais il y a quand même la correspondance ici entre la parole et le calice est une correspondance qui est fondamentale, qui veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire que c'est bien que c'est par l'écoute que j'assimile, c'est par l'écoute que je mange, que je bois. Et finalement, la communion commence, non pas dans la liturgie des fidèles, mais elle commence dans la liturgie du catéchumène, quand on écoute la parole de l'Évangile, ou les versets des psaumes bibliques qui sont prononcés dans les différentes parties, je parle du psaume 145, qu'on chante, je crois, chaque dimanche, « À mon âme bénit le Seigneur », bon, le psaume 145 est très très beau, qui fait partie de la partie du typique, typique et béatitude, toute cette partie-là, cette structure-là, ce sont des paroles bibliques. La béatitude, c'est le serment du Christ lui-même. Et les psaumes, ce sont des paroles bibliques, évidemment. Donc on commence par communier en écoutant, on commence par communier à la parole, et après ça, on la mange, on la boit, comme si l'oreille elle-même était une bouche, en quelque sorte. Notre oreille est une bouche et notre bouche est une oreille. Enfin, il y a une correspondance. C'est deux, je ne pourrais pas être trivial, mais c'est ces deux orifices que l'être humain, dont l'être humain dispose, mais dont l'utilité est essentiellement orientée vers la communication avec la divinité. C'est assez intéressant. D'ailleurs, parce que, par exemple, il est dit que le péché, entre aussi dans l'être humain par l'oreille, par l'ouïe, donc c'est une communion aussi, mais c'est une communion aberrante, une communion erronée qui fait qu'on se nourrit d'une autre parole, la parole maligne. Il y a des bas-reliefs romans où on voit le diable qui parle à l'oreille d'Ève et qui a quelque chose de très 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 impressionnant. Enfin, dans cette manducation, assimilation de la parole, et qui suppose donc l'écoute. Donc, il suppose l'écoute. Ce que dit Maxime Kovalevski, c'est que s'il n'y a pas cette écoute, il n'y a pas d'assimilation. Et s'il n'y a ni écoute ni assimilation, il n'y a pas de salut possible pour l'être humain. Et que c'est en mangeant la parole, en consommant la parole, qu'on peut être sauvé, parce qu'on n'est pas sauvé par un acte unilatéral de la divinité, que ça apparenterait à la magie. Pas ça, le salut. Le salut, c'est justement l'assimilation au Christ, c'est la christification de l'homme. L'être humain n'est plus, comme je me répète, l'être humain n'est pas sauvé par un décret arbitraire d'une divinité, je sais pas, qui serait comme une sorte de juge. C'est pas seulement un juge qui décide un tel sera sauvé, un tel autre sera pas sauvé parce qu'il est méchant, etc. Mais ce que nous entendons par salut, c'est le fait que nous sommes déifiés, que nous sommes divinisés, c'est assimiler la divinité, mais nous ne pouvons être assimilés à la divinité que si nous avons nous-mêmes assimilé la divinité. Il faut l'assimiler pour être assimilé à elle, et pour faire vraiment cette expérience d'une assimilation mutuelle ou d'une appropriation mutuelle. Et ça se fait donc par l'écoute. Alors, dans cette partie là, qui s'appelle « Écoute et assimilation » de ce livre, qui sont en fait des cours donnés par Maxime Kovalevski, ce musicologue ou liturgiste, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, le grand liturgiste, il prend comme exemple plusieurs passages évangéliques qui sont vraiment très, très caractéristiques. Le premier passage évangélique, c'est dans Saint Luc, le chapitre 8, qui est la fameuse parabole de la semence, que je vous relis quand même, parce que c'est quand même un texte exceptionnel pour justement prouver ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire le fait que la parole est une semence, une nourriture. Parce qu'il y a plusieurs images, plusieurs métaphores. Là, il y a la parole semence, il y a la parole nourriture, la parole boisson. On le dit en français, quand on écoute quelqu'un de passionnant, on dit qu'on boit ses paroles. Oui, c'est extraordinaire comme la sagesse populaire dit bien les choses. Alors voilà ce texte dans Saint-Luc. Une grande foule s'étant amassée, des gens étaient venus vers Jésus depuis diverses villes. Jésus dit en parabole, « Le semeur sortit pour répandre sa semence, et pendant qu'il semait, une partie tomba le long du chemin et fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la pierre et, aussitôt levée, sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie, donc trois variables, tomba parmi les épines et les épines croissant avec elle l'étouffèrent. Une autre partie, donc la quatrième, tomba dans la bonne terre et, ayant levé, elle donna du fruit au centuple. Parlant ainsi, Jésus disait « Que celui qui a des oreilles entende bien. » Que celui qui a les oreilles entende bien. Donc, il s'agit bien de l'écoute. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. « À vous, leur dit Jésus, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, tandis qu'aux autres, il est annoncé en parabole, de sorte qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Bon, c'est intéressant, parce que proposition paradoxale, on a l'impression que c'est que Dieu ne veut pas que les gens ne comprennent pas. Non, mais c'est qu'en fait, la parabole révèle chez l'être humain sa cécité, sa surdité, elle révèle toutes les raisons pour lesquelles il ne peut pas comprendre le message de Dieu. Voici ce que signifie cette parabole, continue Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, Ce sont ceux qui entendent la parole et chez qui ensuite vient le démon qui l'enlève de leur cœur de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux en qui on sème sur la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais comme elle ne peut pas prendre racine, parce qu'on ne peut pas prendre racine dans la pierre, ils croient pour un temps et succombent à l'heure de la tentation. Troisièmement, le grain qui est tombé parmi les épines est pour ceux qui, ayant entendu la parole, la laissent peu à peu étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Ils n'arrivent pas à maturité. Enfin, ce qui est tombé dans la bonne terre est pour ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur bon et excellent, la gardent et portent du fruit par la constance. Alors, fin de citation. Le mot constance, Maxime Kowalewski le met en italique, parce que justement, on va revenir là-dessus, c'est pour lui un élément extrêmement, extrêmement important. Ensuite, il cite un autre texte, un texte de saint Matthieu, « Le royaume des cieux, vous connaissez, est semblable à un grain de sénevé que l'homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'il a poussé, il est plus grand que toutes les plantes potagères, il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses rameaux. » Donc, autre parabole qui montre, que c'est la parabole de la parole, qui montre justement comment la parole est une petite graine et qui est semée, et comment elle grandit, comment elle devient tellement importante, tellement développée, qu'elle peut contenir en fait toutes les créatures. Et puis, il y a encore une autre parabole, qui est celle du bon grain et de l'ivraie, donc Maxime cite également, où le Christ parle de l'homme qui a semé du bon grain avant que le diable vienne derrière lui semer de l'ivraie. Voilà, donc on a ces trois, au moins ces trois textes évangéliques là, la parabole du semeur, la parabole du grain de sénévé qui devient un arbre, et la parabole du champ dans lequel, à côté de la parole de Dieu, est semée la parole diabolique. Diabolique, donc, qui est, en fait, conduit à la question du discernement. Bon, alors, en fait, ce qui est très, très important, c'est ça, c'est cette question de l'écoute, on y revient. Celui qui a des oreilles, qu'il entende, dit le texte évangélique, mais... Alors justement, Maxime Kowalewski dit ceci, il va revenir sur la notion de constance, il dit que ces paroles, sont assimilées progressivement. Par exemple, le petit grain imperceptible devient progressivement une plante immense. Le grain lève progressivement pendant que l'homme sommeille. Donc cette idée de croissance, de germination et d'augmentation aussi de la parole initiale, c'est une idée qui est très très importante et qui est caractéristique. On n'est pas dans un domaine de compréhension immédiate, rapide, par exemple quand on nous démontre une vérité. Là non, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas d'une connaissance par la démonstration d'une vérité, il s'agit d'une connaissance par l'assimilation d'une vérité. Et l'assimilation, elle se fait progressivement, à force d'écouter, de réécouter, d'entendre encore, de presque ressasser. Regardez comme nous faisons, comme nous lisons les psaumes, nous les relisons, nous les réentendons, comme l'élément d'une certaine façon répétitif est important dans la prière liturgique. Comme les textes évangéliques reviennent chaque année, on les réécoute. Je ne sais pas, ceux qui sont dans l'Église depuis leur naissance ont dû entendre la parabole du bon samaritain, ils ont dû l'entendre 80 fois, s'ils ont 80 ans, ou 100 fois, s'ils ont 100 ans, avec autant de fois qu'ils sont venus à l'Église depuis leur enfance. Et à force, cette parole qui est encore et encore semée, on finit par l'assimiler, on finit par se l'approprier, on finit par la laisser produire du fruit à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, c'est assez intéressant, justement, il dit que le Christ, d'abord que ses paroles germent, donc de façon progressive, il dit que l'enseignement du Christ ne nous donne pas des solutions formulé d'avant des recettes, mais il nous offre essentiellement d'assimiler sa parole. Il nous donne la possibilité de trouver ultérieurement des solutions à des cas concrets. Alors ça, je voudrais commenter un petit peu ça, parce que c'est assez important. C'est que cette puissance de la parole de Dieu, et la parole de Dieu qui germe et qui croit, se constate expérimentalement. C'est vrai qu'on ne peut pas... Il faut que la personne veuille bien faire l'expérience. Celui qui je ne dis pas seulement apprendre par cœur l'Évangile, comme on le fait, même dans beaucoup de nos paroisses, la mémorisation très claire de l'Évangile, mais l'assimilation de l'Évangile, simplement parce qu'on le lit, qu'on le relit encore, qu'on l'entend et qu'on l'entend encore à l'Église, parce qu'on le commande dans les catéchèses, c'est assez intéressant de voir que, à la longue, si je peux dire, ça produit des fruits. C'est-à-dire qu'il y a une énergie dans la parole de Dieu, une énergie créatrice qui fait que des idées nous viennent, les pensées divines deviennent nos pensées. Les personnes qui sont imprégnées de la parole de Dieu sont des personnes qui finissent par devenir très sages, très profondes, très instruites, très cultivé, c'est une culture au fond. Je ne sais pas pourquoi Maxime n'a pas parlé de cette expression-là. Je pense qu'il y a l'idée d'une culture. Le chrétien normal, si vous voulez, c'est le chrétien qui se nourrit de la parole de Dieu régulièrement, qui l'écoute, qui la ressasse, qui la lit, qui la médite, etc. Ce chrétien devient un homme ou une femme profondément cultivé. Il est comme un champ cultivé. Cultivé, ça se rapproche justement à un champ dans lequel on sème une plante, mais la plante, on ne se contente pas de la semer, on l'entoure, on enlève les mauvaises herbes qui sont à côté, on y met de l'engrais, on arrose, enfin, il y a des tas de choses qu'on fait quand on veut s'occuper de son champ et cultiver ce qu'on y a semé, c'est ça. Mais donc l'idée de culture, c'est une idée très 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 intéressante, très intéressante. Au fond, l'Église, en tant que corps du Christ et corps de la parole, en tant que parole incorporée, et corps et sang de la parole, justement, mais l'Église est essentiellement ce champ. Elle est ce champ, elle est un milieu où l'être humain il n'est pas cultivé, mais il se cultive. C'est-à-dire qu'en l'être humain, membre de l'Église, c'est pour ça qu'il faut être membre de l'Église, qu'il faut participer à la vie de l'Église, etc., c'est parce qu'en nous, dans notre conscience, dans notre intelligence, dans notre âme, se cultive la parole de Dieu. Se cultive la parole de Dieu. Il y a un exemple auquel je pense, que je peux donner, c'est l'exemple de Saint Jean Chrysostome. Si vous écoutez, Saint Jean Chrysostome lisait chaque semaine, alors vous allez me dire, c'est pas directement la parole de Dieu, mais c'est quand même un bon exemple, il lisait chaque semaine toutes les épîtres de Saint Paul. Toutes les épîtres de Saint Paul. Vous allez me dire, c'est pas la mer à boire, c'est pas très très long, mais bon, alors faites-le alors. Et si je vous dis ça, vous allez me dire, oui, mais on peut pas, on n'a pas le temps. Bon, d'accord, mais tu vois que c'est quand même pas si simple. Mais Saint Jean Chrysostome, il avait certainement le temps, il avait probablement rien à faire. En tant qu'archevêque de Constantinople, vous pensez bien qu'il était totalement sous-occupé. Et donc, il profitait des loisirs immenses que lui laissait sa fonction pour lire non seulement l'Évangile, mais intégralement les épîtres de Saint Paul chaque semaine. C'est très intéressant. Or, justement, ce qu'on constate chez lui, ça pourrait être montré, voilà un sujet de thèse pour les gens qui cherchent des sujets, on peut montrer assez facilement que le Saint Jean Chrysostome, en fait, a tellement assimilé l'enseignement de l'apôtre Paul qu'il l'a fait sien, et qu'à un moment, il finit par dire, par prononcer certaines vérités, certains messages, qu'on dit assumer certains messages, comme les siens à lui, comme s'il était en train de les inventer. Alors, en fait, il n'est pas en train de les inventer, ça vient de Saint Paul. Donc on peut retracer telle parole de Saint Jean Chrysostome, enfin, la retracer dans les écrits de l'apôtre Paul, mais finalement il porte son nom, vous voyez, c'est assez intéressant le fait de l'assimilation et de l'appropriation. C'est dans beaucoup de domaines, par exemple, il faut que les pensées de Dieu deviennent nos pensées. C'est ça la grande question. Et ça ne peut pas se faire autrement que par une rumination continuelle, une écoute, une réécoute, une méditation continuelle. Et Maxime dit que l'écoute, dans ce cas-là, doit être une réceptivité sans réserve. C'est-à-dire que ce n'est pas en discutant la parole de Dieu qu'on va l'assimiler, qu'on va la comprendre. Si en la recevant sans discussion, et Maxime me commande, écoute, ne réfléchis pas, mais tiens ou retiens ce que tu as entendu. Mais il ne s'agit pas de discussion. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que notre relation à Dieu est quand même une relation très particulière, parce que avec nos amis, nos proches, nos enseignants, nos professeurs, quand même, nous discutons, nous posons des questions, j'ai pas compris, mais je suis pas d'accord, etc. Enfin, bon. Mais avec Dieu, la question ne se pose absolument pas. Il est hors de question d'aller dire à la parole incarnée, je ne suis pas d'accord, on ne conteste pas Dieu, vous voyez. Il y a quelque chose qui est absolu, parce que Dieu est le Seigneur, il est le trois fois saint. Et donc le trois fois saint, il n'a pas de... Bon, alors si on le conteste, on le met en croix, c'est autre chose, mais il faut quand même savoir que les personnes qui se sont opposées à la parole vivante, à la parole incarnée, qui l'ont discuté, contesté, accusé, condamné, exécuté, ces personnes-là se sont privées du salut. C'est ça le problème, il est là. C'est qu'à partir du moment où on commence à discuter l'enseignement du maître, eh bien on se prive de cet enseignement. Parce que ça veut dire qu'on se croit plus intelligent que lui, qu'on veut avoir raison contre lui, et donc on va lui donner tort, éventuellement on va le juger. C'est pas possible. Mais même dans un cas pratique, imaginez un étudiant qui, justement, on parlait d'apprendre une langue, va s'inscrire à la Sorbonne, où il y a des cours de roumain qui sont très intéressants, très très bien faits, qui arrive dans le cours et qui, toutes les trois minutes, interrompt l'enseignant pour lui dire « Ah ben non, moi je connais le roumain, c'est pas comme ça qu'on dit, non, j'ai lu quelque chose, c'est pas ça. » Bon, alors le professeur va être interrompu une fois, deux fois, trois fois, et après ça, ben, il va dire à cet étudiant « Écoutez, monsieur Intel, puisque vous savez tout, je ne sais pas ce que vous faites dans ce cours, c'est peut-être mieux que vous alliez vous promener et puis que vous me laissiez faire ce que j'ai à faire. » Ou alors le professeur va dire ben, « C'est comme ça, moi j'arrête, je me tais. » On donne des cours de mathématiques, l'élève discute, on dit 2 font 4, mais non, pas du tout, 2 et 2 ne font pas 4. Bon, on dit la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits, mais non, dit l'élève, pas du tout. Bon, ben alors, tu laisses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas apprendre. Et donc Maxime, justement, ainsi là-dessus, il dit que dans notre disposition par rapport au verbe qui est le maître, le rabbin, le grand rabbin, le Christ, c'est notre maître. Et notre disposition par rapport à notre maître, c'est une disposition d'apprenti. Nous sommes dans l'Église pour apprendre, pas pour contester. Et on peut contester à la rigueur des opinions humaines, quoique dans le domaine scientifique, par exemple, je parlais des mathématiques, je ne vois pas très bien qui peut s'amuser à contester, je ne sais pas quoi, les propositions d'Euclide, ou le théorème de Pascal, ou de... Ah bon, on conteste qui veut, mais à plus forte raison dans le domaine de la foi, si vous voulez, on est là pour être des apprentis et pour se nourrir, on se nourrit de Dieu, se nourrit de Dieu. Oui, il faut retirer ça, l'idée d'apprentissage, l'idée de réceptivité sans réserve, et l'idée du que aussi, donc cette parole a une opération de germination en nous, et nous sommes surpris. Je peux le dire moi-même de ma propre expérience, je ne suis vraiment pas un exemple pourtant, mais tout de même à mon petit niveau, je peux dire que à force, si vous voulez, de vivre dans l'Église, de lire, d'écouter, je ne sais pas, les paroles de l'Évangile me viennent tout de suite, ça devient ma sagesse, ça devient ma référence, ça devient ma culture, ça devient... C'est un des réflexes même de les citer. Finissons par penser comme pense notre maître. Alors, on va dire, oui, c'est la pensée unique. Non, c'est pas la pensée unique, mais si je suis le disciple de ce maître-là, eh bien, je me suis approprié son enseignement, je l'ai fait mien, j'en assume la responsabilité, je suis prêt à mourir pour ça. Les martyrs, par exemple, c'est intéressant, les martyrs avaient tellement assimilé l'enseignement du Christ qu'ils s'étaient tellement identifiés à leur personne qu'ils étaient capables de donner leur personne pour cet enseignement-là, puisque c'était équivalent. À un moment, il y a équivalence entre l'enseignement et le disciple. Et cette équivalence, elle est marquée par le sacrifice sanglant. Alors ensuite, dans cette... Maxime Kowalski a une phrase qui est très très bonne pour résumer tout ça. Il dit « L'enseignement du Christ et de l'Église est une semence et non une doctrine. » Cette phrase-là, il faut vraiment la retenir, c'est admirable, parce que ça, on comprend bien, vous voyez. Si c'est une doctrine, ben alors ça procède par la raison, on va discuter, on va essayer de comprendre, et c'est quand on aura compris qu'on va retenir, sur la base de l'intellection. Mais si c'est une semence, c'est autre chose. Si c'est une semence, on va la recevoir, on va en devenir riche. C'est un peu aussi l'idée de fécondation, quand même. L'idée de fécondation. On a parlé d'assimilation, on a parlé de... Bah oui, la semence, si vous voulez, bah ça se rapporte quand même à la fécondation. Une femme qui reçoit la semence virile, bah elle reçoit en elle-même un processus de germination qui va croître et qui va donner un enfant, elle va donner un bébé, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Dieu s'insémine, en quelque sorte, dans la Vierge, la Mère de Dieu. Parce que c'est exactement ça le processus, c'est la parole qui se fait semence dans le sein virginal. Il faut que ce soit un sein virginal, c'est-à-dire un milieu de réceptivité absolue. Pourquoi est-ce que Maxime ne prend pas cette image? C'est moi qui la développe parce qu'elle me paraît naturelle. La virginité, ça veut dire un milieu de réceptivité, d'écoute absolue, dans lequel il n'y a aucun mélange, aucune distraction, aucun parasite, si je peux dire, oui. Aucun virus, non. Et donc l'être humain, la conscience de l'être humain, la conscience de la personne qui écoute, est une conscience absolument disponible, absolument réceptive et absolument malléable et disponible aussi pour... c'est la réceptivité. Je pense que la virginité, la triple virginité de la Mère de Dieu que nous glorifions, en fait, ça désigne... entre autres, la réceptivité absolue à la parole de Dieu. Et cette réceptivité absolue à la parole de Dieu, comme semence, justement, donne la fécondité, la grossesse et la mise au monde de cette parole. Hein, donc, derrière l'idée d'écoute et d'assimilation, il n'y a pas seulement l'idée de menduication, il y a l'idée aussi de fécondation biologique, en fait. Biologique, où Dieu devient, prend corps, devient chair de chez nous. Il prend corps, comme on dit aussi dans le langage populaire, il prend corps et âme en nous. Donc il faut que se réalise par l'écoute et l'assimilation, qui se réalise pour chacun d'entre nous, en fait, le mystère de la fécondation. La fécondation, non pas in vitro en l'occurrence, mais in utero, justement. C'est assez important, ça aussi, que la parole, là, si vous voulez, elle ne va pas être fécondée dans un milieu qui n'est pas un milieu vraiment réceptif. Un milieu artificiel qui serait en laboratoire, par exemple, eh bien, n'apporterait pas une vraie écoute, une vraie attention, une vraie réceptivité. C'est simplement un bocal. Mais le disciple n'est pas un bocal. Hein. Le disciple est un réceptacle, mais dont la réceptivité est active et consentante et passionnée et aimante. Le disciple aime le maître. Regardez comme les disciples entouraient Jésus-Christ avec amour, les 12, même Judas. Judas aussi est un homme qui avait un amour extrême pour le maître. Et c'est le père Serge Bulgakov, dans un livre qui vient de paraître, il dit que c'est parce que Judas aimait extrêmement le Christ qu'il l'a livré parce qu'il voulait absolument l'obliger à accomplir la mission politique qu'il pensait qu'il avait. Enfin bon, ça, c'est dans les développements qu'on peut faire, mais Judas n'était pas quelqu'un qui n'aimait pas le Christ. Aucun disciple n'a pas aimé le Christ, pas du tout. Être disciple, ça commence par l'amour. Et parce qu'il n'y a pas d'assimilation, il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas d'intégration du message véritablement sur l'amour. Il n'y a pas de... Dieu ne viole pas les consciences humaines, vous voyez. C'est ça la différence. C'est vrai qu'on peut forcer quelqu'un à manger, on peut forcer une femme à accepter la fécondation, mais ça ne se compare plus du tout à ce moment-là avec l'idée de réceptivité telle qu'elle est dans l'Évangile. La parole de Dieu ne peut être imposée à personne. Elle ne peut être reçue que dans le consentement. Ça, c'est assez important aussi. Aucune brutalité ne peut produire une germination vraiment intéressante. C'est là que les autres métaphores sont quand même limitées, parce qu'on sait que malheureusement, une femme peut devenir enceinte à la suite d'un viol, par exemple. On sait aussi qu'on peut forcer quelqu'un à manger en l'obligeant, etc. Et donc la comparaison s'arrête très vite, vous voyez. En réalité, dans la disposition dont parle Maxime ici, il y a l'écoute, et j'écoute, c'est-à-dire je suis disposé, je dis oui à cet enseignement, je dis oui à la parole de Dieu, je dis oui à l'annonce de l'archange Gabriel, je dis oui à la semence, et c'est parce que je dis oui à la semence que je deviens moi-même enceinte ou enceint, je ne sais pas si le mot peut être utilisé au masculin, mais il faudrait pouvoir trouver quelque chose de ce genre-là. Donc vous voyez, vous retiendrez cette phrase de Maxime, l'enseignement du Christ et de l'Église est une semence et non une doctrine. Donc ça c'est très très important, vous retiendrez ce que j'ai dit sur le fait qu'il s'agit d'un apprentissage, et par exemple Maxime dit dans le domaine de la connaissance vivante, il n'est pas possible d'éviter l'apprentissage, mais c'est le cas par exemple pour les métiers, l'artisanat, la musique, comment est-ce qu'on apprend à jouer du piano ou du violon? C'est ça, c'est un apprentissage, c'est une assimilation, autrement on ne jouera jamais ni du violon, ni du piano, ni d'aucun instrument, si on n'accepte pas cet apprentissage, si on n'accepte pas une certaine forme de répétition, une certaine forme d'assimilation. Alors donc ceci se rapporte à la liturgie. C'est ça qui est finalement la fin de ce passage, justement c'est important parce que tout culmine dans l'enseignement de Maxime Kowalewski vers la conception juste de la liturgie. La définition de la liturgie, ça va être, entre autres, essentiellement le moment grand M, où l'être humain, écoute, assimile, mémorise, digère, qu'est-ce qu'on peut dire encore, la parole de Dieu, et finalement la consomme eucharistiquement tout de même. Voilà, donc il dit, justement je lis ce passage là-dessus, bon il dit bien sûr qu'il y a des études de théologie, il y a les églises, bon, mais quel est le rôle de la liturgie? La liturgie prévoit qu'il faut écouter. Pourquoi la liturgie se répète-t-elle chaque jour, chaque semaine, chaque année? C'est pour aider à l'assimilation. À la énième fois, on entendra peut-être quelque chose que l'on finira par retenir. Mais nous faisons l'expérience de ça. Combien de fois des amis dans l'église me disent « Oh, cet évangile, ça fait 30 fois, 100 fois que j'écoute. » Là, aujourd'hui, j'ai entendu comme je ne l'avais jamais entendu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à force d'entendre l'évangile, il se crée, je pense, dans la conscience, une disposition nouvelle, et si on le comprend mieux la énième fois que la première fois, c'est parce qu'en fait le travail de préparation a fini par se faire dans notre conscience. Alors ici justement, Maxime parle de quelque chose qui est très important, il dit que cette mémorisation, cette assimilation se fait par couches successives et progressives de répétition. Parce que si on se laisse pénétrer par la parole de Dieu, en jouant le jeu, dit-il, en entrant dans le jeu, sans crispation, librement, avec consentement, en se souvenant de la parole pour comprendre quelles sont les semences qui se déversent dans l'âme, etc., eh bien, il se passe un phénomène très important qui est le phénomène de la maturité. La maturité, laquelle est la maturité? C'est la maturité de la parole en nous, mais c'est la maturité de l'homme aussi qui devient apte, de plus en plus apte à être responsable de cette parole. La maturité, il dit, la maturité n'est pas donnée par une doctrine bien apprise. La maturité, c'est la possibilité acquise de distinguer par soi-même ce qui est vérité de ce qui ne l'est pas, ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas de lui. Alors ça, c'est une très très bonne formule, ça, oui, vous voulez que je la relise. La maturité n'est pas donnée par une doctrine bien apprise, elle est la possibilité acquise de distinguer par soi-même ce qui est vérité de ce qui ne l'est pas, ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas de lui. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le discernement. Le discernement. Alors c'est important parce que par exemple dans l'histoire du paradis qui est très très importante, il faut toujours revenir là-dessus, ce qui permet de décrire la chute, je ne dis pas l'expliquer, je dis de décrire, c'est justement le manque de maturité. Quand on est au début, qu'on n'a pas encore assimilé la parole de Dieu, qu'on n'a pas encore digéré, qu'on n'a pas eu fait expérience d'une sorte de grossesse de la parole de Dieu, on n'a pas cette maturité, on n'a pas le discernement, et donc on est vulnérable. Le cas de la chute, c'est un cas typique de l'absence de maturité et l'absence de discernement, et qui venait du fait que, comme dit Saint-Irénée, d'ailleurs Saint-Irénée dit que l'humanité était... dans un état un peu enfantin d'immaturité, donc de fragilité, n'ayant pas l'expérience, n'ayant pas le discernement, et donc elle a pu être trompée. Mais quelqu'un qui a acquis la maturité et le discernement par l'assimilation de la parole de Dieu ne peut pas être trompé. C'est ce que dit le psaume 90, il dit « rien ne pourra t'atteindre ». Il y a une invulnérabilité du disciple. Et l'invulnérabilité du disciple quand il a justement assimilé tout ce que le maître avait à lui confié. Alors ça, c'est le travail de la liturgie. La liturgie, vous voyez, c'est pour ça que, par exemple, il insiste beaucoup là-dessus, je l'ai dit tout à l'heure, sur la constance. La constance, la persévérance, comment on dit, il y a un mot, c'est pas Stradowitz, comment est-ce que la persévérance en roumain, Ah bon, peu importe, c'est pas le sujet, mais la persévérance est une vertu de base. Souvent, les personnes viennent dans la confession et disent, voilà, je comprends pas, je suis retombé dans ceci, je suis retombé dans cela. La réponse est la persévérance. Soyons persévérants, soyons constants, et à force, nous verrons comment les fruits sont portés dans notre vie. Nous en rendrons peut-être même pas compte nous-mêmes, mais les fruits de la parole seront apparus en nous. Vous savez, c'est comme le jardinage. C'est vrai que si je vais pas au jardin tous les jours une heure, j'aurai jamais de jardin. Alors c'est surtout vrai pour les potagers. Mais c'est vrai aussi pour les fleurs, c'est vrai pour les fruits. Il n'y a pas de jardin sans jardinier. Alors on achète des trucs tout faits, ou on paye quelqu'un pour y aller si on n'a pas le temps. Mais le jardinage, comme toutes les formes de culture, implique une constance et une persévérance vraiment quotidienne. C'est pour ça que je me rappelle de mon père spirituel, le père Sofiane. Souvent, chaque fois que je lui ai posé la question concernant le carême de Noël ou le Pâques, le carême de Noël, je me rappelle surtout, chaque fois je disais, qu'est-ce que je peux faire pendant le carême de Noël ? Chaque fois, il me disait, Père Marc-Antoine, relisez l'évangile en entier d'ici Noël. C'est-à-dire que son conseil, c'était toujours ça, c'était toujours la parole. Alors, ici, Maxime Kovalevski ne parle pas de méditation de la parole, on pourrait en parler, mais c'est un peu un autre sujet. Il parle d'assimilation, d'écoute, de présence, derrière ça, il y a peut-être l'idée de méditation. Mais la méditation, c'est encore autre chose. C'est vraiment mettre au milieu de soi. Celui qui médite la parole de Dieu, c'est celui qui met au centre de lui-même cette parole. Donc c'est une forme aiguë, si je peux dire, que prend l'écoute, que prend l'assimilation et que prend la présence. C'est qu'on finit par être tellement présent à la parole de Dieu que cette parole elle-même devient archi-présente à l'intérieur de nous-mêmes. La méditation, c'est une expérience du milieu de soi. C'est une expérience du centre. Elle est centrale, si vous voulez, dans le sens que c'est une expérience du centre. Celui qui médite est celui qui reçoit dans le centre de lui-même l'objet ou le sujet de sa méditation. Par exemple, même quelqu'un qui médite un mauvais coup, mais ça veut dire qu'il a dans son cœur, au plus profond de son cœur, dans le centre de lui-même, il a un mauvais projet de braquer une banque, ou je ne sais pas quoi. Donc, à plus forte raison, méditer une bonne chose, ou méditer la parole de Dieu, c'est la mettre au centre de soi. Centre de soi. Mais donc ça, c'est une idée qui n'est pas développée dans les cours de Maxime, autant que je sache. Mais qu'on peut, voilà, on peut quand même connecter à ce qui est dit aujourd'hui sur l'écoute et l'assimilation. Et c'est vrai que tout d'après la liturgie, alors ça on va le montrer plus tard, la structure même de la liturgie, la structure responsoriale de la liturgie est faite pour ça justement, pour écouter et assimiler la parole de Dieu. Voilà, donc c'est comme ça que je conclue ce soir ce cours sur Maxime Kowalewski. Voilà. Là, je regarde les messages qui peut-être concernent ce cours, je ne sais pas. Hein. C'est vraiment des gens très intéressants. Non. Il y a un message qui est intéressant, c'est une paroissienne d'une ville de province qui me dit, ça a un peu un rapport avec le sujet qu'on vient de dire, qu'on vient d'avoir, mais elle dit que son bébé commence à bouger en elle. Hein. Je reste faible et fatigué, mais je souffre moins et j'ai senti le bébé remuer dans le ventre. Pendant que ça illustre exactement notre propos, je pense qu'il y a un moment aussi où la parole de Dieu commence à être vivante en nous et à bouger. Mais il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Qu'est-ce que veut dire, par exemple, le tressaillement de Saint Jean-Baptiste devant le Christ Mais il a tressailli devant la parole. Hein. Parole, pas uniquement devant son petit cousin, oui, ça peut être ridicule, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la médecine. Voilà, donc là, on passe au deuxième cours, voilà. Donc on change de batterie, et moi je change de sujet. Ça va? Voilà, donc le deuxième cours de ce soir, c'est ce qui a été annoncé, porte sur le typicon de notre Église. Alors, la semaine dernière, j'ai expliqué, je crois qu'il me semble que c'était intéressant ce que j'ai dit, en parlant en toute humilité, je pense que ce que j'ai réussi à dire concernant le typicon est intéressant, c'est ce que j'ai dit, je vous le rappelle, que le typicon, c'est en fait l'expression aussi de l'unité de l'Église. Le fait de suivre l'ordre liturgique de notre Église, ça veut dire qu'on accepte la tradition dans son unité, ça veut dire qu'on renonce aussi à son caprice, hein, on renonce à la fantaisie, on renonce à ses passions pour se soumettre librement à ce que fait l'Église. On accepte de prier comme l'Église prie. Et cette soumission, aimante, c'est parce que je l'ai dit, ça aussi c'est parce qu'on aime l'Église, qu'on aime le Christ, qu'on accepte de le faire, ça produit des fruits d'unité, non pas d'uniformité, mais d'unité, de concorde, de concorde. Il y a une concorde liturgique, hein, qui vient du fait que on est d'accord de suivre le typicon, parce que ce typicon est vénérable, je l'ai dit la dernière fois, je crois, il nous vient en grande partie du monastère de Saint Sabas. Vous savez que nous avons fait mémoire de Saint Sabas ou Sava, pour ceux qui sont roumains ou serbes, Sintul Savas, on dit français, on dit Saint Sabas. On l'a fêté le 5 décembre, la veille de Saint Nicolas, et ce grand saint de notre Église a vécu au monastère qui porte son nom, en Palestine, que j'ai vu cette année, qui est très très beau, et donc le typicon que nous avons dans nos églises orthodoxes, dans nos paroisses, c'est principalement le typicon de Saint Sabas, mais donc revu et en quelque sorte diffusé par ce qu'on appelle la grande église, c'est-à-dire l'église de Constantinople, c'est-à-dire la secte. Voilà. Pour dire les choses dans un autre terme, l'église de Constantinople a généralisé le type icône de Saint-Sabas à l'ensemble des églises qui étaient sous son influence, sa juridiction directe ou son influence indirecte. Donc finalement, toutes les églises orthodoxes ont, alors on pourrait le dater, c'est quand même assez tôt, hein, c'est à partir de, je sais pas, de l'ère constantinienne, bien sûr, à partir, on va dire qu'au 5e siècle, je pense, je ferais vérifier, mais il me semble qu'au 5e siècle, la généralisation du type icône dans l'ensemble de l'Empire byzantin est un fait acquis. Donc ça peut se discuter, on peut critiquer ça, on peut dire qu'on peut regretter que ceci a entraîné la disparition de liturgie locale, mais bon, c'est un fait. Dans le même, j'avais fait la comparaison avec ce qui s'est passé en Occident, où l'Église de Rome a généralisé aussi, mais a imposé le rite romain à l'ensemble de l'Empire d'Occident, disons, et a fait disparaître les rites milanais, ambrosiens, gallo-romains, cette grande richesse liturgique qu'il y avait. Bon, ce sont des phénomènes comparables, mais j'avais bien dit que c'était quand même tout à fait différent. Faut pas pousser les comparaisons trop loin. Donc toujours est-il que le typicon donc est extrêmement important, et j'ai choisi de présenter dans le typicon roumain qui est le nôtre la partie du typicon qui concerne la sainte liturgie. Comme j'ai parlé des vêpres et des offices l'année dernière, je vais pas y revenir. Alors pour ce qui est de la sainte liturgie, j'en ai déjà donc parlé la dernière fois. Le typicon roumain donc d'abord présente les trois liturgies fondamentales que nous avons, c'est la liturgie de Saint-Basile, la liturgie des dons présanctifiés et la liturgie de Saint-Jean-Chrysostome. Et après ça, donc, il y a des détails que je vais présenter également sur la préparation de la liturgie, des choses très, très concrètes, très précises, mais qui font partie du typicon. C'est ça, si vous voulez, le typicon, c'est consiste à dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on le fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour être en harmonie avec ce que l'Église fait. Donc, pour être en harmonie avec l'Église, on commence par célébrer la liturgie que l'Église célèbre. Donc, il n'y a pas de création liturgique de gens qui vont faire leur propre liturgie. Non, on célèbre la liturgie. Qu'est-ce que célèbre l'Église? Elle célèbre la liturgie de Saint-Basile, j'en ai déjà parlé l'autre jour. Elle célèbre, par ailleurs, la liturgie des dons, qu'on appelle les dons présanctifiés. C'est-à-dire que cet office de vêpres, sur laquelle on reviendra certainement, c'est un office de vêpres utilisé pendant le carême et au cours duquel on communie en fait à l'agneau qui a été consacré le dimanche précédent. Et alors donc le typicon explique que cette liturgie des dons présanctifiés est la liturgie spécifique des jours ordinaires du grand carême. En principe, cette liturgie des présanctifiés pourrait se célébrer tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche, et sauf un jour, lequel ? Eh bien, le jour de l'Annonciation. Donc, en principe, on pourrait célébrer la liturgie des présanctifiés tous les jours de la semaine. Hein. Mais en tout cas, pas le samedi, pas le dimanche, parce que le samedi et le dimanche, vous savez, sont toujours des jours qui sont considérés comme hors carême. En fait, c'est pas absolu, puisque pendant le carême de Pâques, je parle pas du carême de Noël, c'est un peu différent, le carême de Pâques, le samedi et le dimanche, ben, si vous voulez, quand même, on mange pas de viande, tout de même. On mange pas de viande, on mange pas de laitage. Alors, la différence n'est pas énorme. On mange pas de poisson non plus, hein, donc... disons qu'on prend du vin et de l'huile, je crois. Voilà. Si on regarde le typicon et le calendrier liturgique, le samedi et le dimanche pendant le grand carême, on a de l'huile et du vin. Voilà. Donc, ça fait une petite différence. Ça veut dire que samedi et dimanche sont hors carême. Et surtout, ce qui marque que c'est hors carême, c'est qu'on célèbre la liturgie de Saint-Jean Chrysostome ou la liturgie de Saint-Basile. C'est ça qui fait vraiment la grande différence entre le samedi et le dimanche et la semaine, ou bien c'est ce qui marque la semaine carémique, c'est la liturgie des dons présentifiés. Sauf, bien sûr, pour la fête de l'Annonciation, où on célèbre les oliviers de Saint Chrysostome. Maintenant, ce que dit notre typicon, c'est que dans la pratique, la liturgie des présentifiés, qui pourrait très bien se célébrer tous les jours, si on voulait, hein, en fait, dans la pratique, elle se célèbre, même dans les monastères, seulement le mercredi et le vendredi, pendant les 7 semaines du grand carême. Donc c'est simplement, et encore, il y a beaucoup de paroisses qui ne la célèbrent qu'une fois, qui ne célèbrent que le mercredi, et il y a également des paroisses, j'en connais beaucoup, qui ne célèbrent jamais. Parce que dans certaines paroisses orthodoxes, si vous voulez, d'abord on a ici en France, on a l'église que le samedi et dimanche, c'est une église louée, ou en Roumanie, souvent les églises sont ouvertes le samedi et dimanche, elles sont pas ouvertes dans la semaine. Donc je connais des paroisses en Roumanie où on ne célèbre jamais les présentifiés, le prêtre, je dis ça, bon, c'est pas méchant de ma part de le dire, mais enfin quand même j'ai rencontré un prêtre roumain qui m'a dit qu'il n'avait jamais assisté à la liturgie des présentifiés. Bon, ben oui, parce que s'il célèbre le samedi et le dimanche, il n'y a aucune raison qu'il connaisse. Voilà. Mais donc, en tout cas, si on voulait, on pourrait célébrer tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on pourrait célébrer la liturgie des présentifiés. Alors, sauf un jour, quand même, quel est le jour, voilà la question, quel est le vendredi où on ne célèbre pas les présentifiés, une fois, deux fois, trois fois, c'est le vendredi saint. Alors, le vendredi saint, il n'y a pas de célébration des présentifiés. Donc ça, c'est d'être clair aussi, je le dis, parce qu'il n'y a pas d'erreur dans ce domaine-là. Le vendredi saint, c'est vraiment un jour aliturgique, mais beaucoup plus que les autres, puisque c'est un jour où on ne communie pas. La communion eucharistique est exclue du vendredi saint. On va communier le samedi saint, on a communié le jeudi saint, c'est-à-dire la veille, c'est déjà pas mal. On a pu communier le mercredi précédent s'il y avait des présentifiés. Donc vous avez déjà communié mercredi, jeudi, et vous avez communié samedi. Vous communiez déjà 3 fois cette semaine, c'est pas mal. Et encore, si vous êtes une paroisse super équipé, vous pouvez très bien avoir célébré les présentifiés le lundi. Donc ça vous fait lundi, mardi, mercredi, on a communié, jeudi, on a communié, samedi, on va communier, mais vendredi saint, non. Vendredi saint, non. Voilà. Donc ça, retenez ça sur vos tablettes, que ce soit quand même clair pour tout le monde. Et, alors, il peut y avoir aussi des cas, apparemment, si je comprends bien le typicon que j'ai sous les yeux, dans d'autres jours, quand il y aurait des fêtes d'église plus importantes, par exemple, il y a une fête paroissiale, hein, la fête de Saint Jean-Baptiste, qui sont le 24 février, donc ces jours-là, les 40 martyrs de Sébaste, la veille de l'Annonciation. Bon, alors, donc, ce serait quoi, qu'est-ce qu'il dit, notre typicon? Dans la pratique, je relis un peu ce qu'il dit, dans la pratique, la liturgie des présentifiés se célèbre, même dans les monastères, seulement mercredi et vendredi des 7 semaines du grand carême, sauf le vendredi saint, d'accord. Et les autres jours, ah oui, c'est ça. Et si on veut célébrer, par exemple, imaginez que c'est la fête de votre paroisse en semaine, eh bien, vous pouvez célébrer la liturgie des présentifiés. Vous n'allez pas célébrer Saint Chrysostome, vous allez célébrer la liturgie des présentifiés un lundi ou un mardi, voilà, pour honorer cette fête. Voilà. Jahrs inschedalte zile de rund, alle septemine, luni marci joi, numai kund kag salvatori biserichest, mai importante, karesund shihramuri de biserich. Bon, donc ça, voilà. Si dans la semaine, normalement, le prêtre célèbre mercredi et vendredi, ou simplement le mercredi les présentifiés. Mais si il se trouve une fête qui va arriver dans cette semaine, on peut rajouter une célébration des présentifiés le lundi ou le mardi ou même le jeudi pour honorer cette fête. D'accord? Donc c'est ça, la liturgie des présentifiés, c'est ça son obligation. Donc en fait, alors, pour toutes les paroisses qui nous écoutent, disons, il faut que ces personnes paroisses se sentent encouragées à célébrer la liturgie des présentifiés au moins une fois par semaine, pendant tout le carême, ou au moins une fois, je ne sais pas, de faire quand même l'expérience de la célébration des présentifiés au cours d'une des 7 semaines le carême, parce que c'est vraiment important, et ça fait partie du typicon. C'est-à-dire que voilà un exemple d'unité. Quelqu'un qui ne célèbre jamais les façons sanctifiées, quelqu'un qui est privé d'un élément d'unité de l'Église. Parce que chez nous, les orthodoxes, l'unité ne dépend pas de la soumission à une autorité. Elle dépend essentiellement du fait que nous faisons ce que fait l'Église, que nous agissons de la même façon, que nous avons un comportement, une attitude, des choix communs. Nous avons une unité de volonté, voilà, une unanimité. Je cherchais le mot tout à l'heure. Le typicon exprime quelque part l'unanimité de l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut être très rigoureux là-dessus. Moi, je ne suis pas un exemple parce que je fais beaucoup d'erreurs, je me trompe, ce que je reconnais volontiers, mais n'empêche que je suis bien conscient de ça, que je dois, en tant que prêtre, en tant que fidèle, je dois faire ce que fait l'Église. Je dois suivre ce que fait l'Église, parce que je suis au service de l'unité de l'Église, de cette façon-là, et je dois aussi y trouver mon bonheur, trouver une gratification, disons, à faire cette expérience d'unanimité et de concorde et d'harmonie intérieure de l'Église. C'est ça notre expérience de l'unité. C'est pour ça que le titre de typicon comporte aussi, par exemple, les règles concernant le jeûne. Ben, c'est pareil, on suit le jeûne autant qu'on peut, parce que c'est une expérience d'unité. Ça fait partie de l'expérience de la communauté appelée Église. Ce n'est pas parce qu'on doit ou qu'il faut, ce n'est pas pour des raisons extérieures. L'Église, je crois en l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Mais je commence par dire une. Et une, tu veux même dire unique. Alors oui, ça va loin. Unique Église, je crois en une unique Église. Et ben, l'unicité et l'unité de l'Église s'expriment par son typicon. Autant qu'on peut, évidemment. Autant qu'on peut, suivant nos forces, pas non plus. Je le dis, moi je suis là pour le dire, encourager les paroisses à le faire. Voilà. Après ça, donc la troisième liturgie, c'est la liturgie selon saint Jean Chrysostome. Alors on dit, fais attention dans les expressions, on dit liturgie de saint Jean Chrysostome, liturgie de saint Basile. Je pense qu'il faut rectifier un petit peu. L'expression juste, c'est la liturgie selon saint Jean Chrysostome, selon saint Basile, et la liturgie des présanctifiés, selon saint Grégoire le Grand, hein, qui sont des... Parce que c'est-à-dire que c'est des offices qui sont mis sous le patronage d'un très grand saint, mais en sachant que ce très grand saint n'a pas écrit lui-même cette liturgie à la main, ni écrit toutes les prières, vous voyez. Mais quand même, il y en a pu en écrire un bon bout, puisqu'on... On retrouve, je me suis aperçu pour saint Jean Chrysostome, par exemple, qu'il y a des citations, des prières pour toutes les heures du jour qui sont attribuées à saint Jean Chrysostome, et une de ces prières, c'est exactement la phrase qui est dans la première prière des Vêpres. Donc c'est bien la même personne. La critique interne du patrimoine liturgique permet d'identifier quand même des auteurs. Il y a quand même une personne quelque part qui a dû quand même gouverner cette création liturgique. Enfin bon, toujours est-il que, en ce qui concerne, parce qu'il s'agit ici dans le typicon des moments pour célébrer, la liturgie selon saint Jean Chrysostome se célèbre tous les jours dans lesquels on ne célèbre pas une des deux autres liturgies. Bon, c'est-à-dire les jours où on ne célèbre pas les présanctifiés et les jours où on ne célèbre pas la liturgie de saint Basile. J'ai rappelé la dernière fois, ce que vous savez très bien, que la liturgie de Saint-Basile se célèbre 10 fois par an. Alors, donc, je l'avais refait la liste, je ne la referai pas aujourd'hui, je la retrouverai dans le cours précédent. Donc, c'est 10 fois par an, on célèbre Saint-Basile, on ne célèbre pas Saint-Jean-Chrysostome. Et on ne doit pas, on doit suivre cette règle-là aussi. On doit suivre cette règle-là. Je n'ai pas rien, le jeudi saint, par exemple, on célèbre la liturgie de Saint-Basile, on ne célèbre pas la liturgie de Saint-Jean-Chrysostome. Voilà, il faut faire des efforts. En plus, c'est rien du tout. Il y a des paroisses qui m'ont écrit, me disent, oui, mais on ne sait pas, on n'a jamais célébré Saint-Basile. Mais écoutez, les enfants, c'est pas grave. Pour le cœur, c'est la même chose. À part le Kérubicon, le chant d'entrée des chérubins, c'est la même liturgie. Donc, c'est pour les prêtres, c'est différent. Mais pour les chantres, ça ne fait aucune différence. Et pas non plus faire une montagne de la célébration liturgique. Et puis si vous ne savez pas chanter, ce n'est pas un problème. Vous lisez les textes, l'important c'est d'entendre les textes, recto tono, ce sera très bien. Bon, donc la liturgie de saint Jean Chrysostome, c'est la liturgie usuelle ou normale de l'Église orthodoxe, si vous voulez. Cette, C'est comme ça, depuis très très longtemps, ça peut être contesté, il y a des personnes qui disent, mais on devrait pouvoir célébrer, mais on célèbre d'autres liturgies, on célèbre, je vous l'ai déjà dit ça, on célèbre la liturgie selon Saint-Jacques, on célèbre la liturgie selon Saint-Marc, on peut célébrer la liturgie selon Saint-Germain de Paris, on peut célébrer d'autres liturgies, si vous voulez, occasionnellement, à l'occasion de la fête du Saint, par exemple, bah oui, célébrer la liturgie de Saint-Marc, quand c'est la fête de Saint-Marc, c'est pas aberrant, disons. Mais quand même, la liturgie usuelle, de base, c'est la liturgie de Saint-Jean-Chrysostome. Et ceci est important, parce que ça se réfère un peu au cours précédent, c'est que le fait que nous ayons cette liturgie que nous entendons très très souvent, qui revient beaucoup en réentendant les prières, elle finit par nous former, elle finit par nous cultiver profondément. Alors si on avait des changements liturgiques tout le temps, on n'aurait pas les mêmes résultats. Vous voyez, ce qui cultive, c'est la répétition, c'est la constance, c'est la persévérance et la régularité aussi. La régularité. Vous avez des grands saints comme le patriarche Pavlet de Serbie qui célébrait la liturgie tous les jours. Oui. Tous les jours, le patriarche Paul a célébré la divine liturgie. Et quand il devait aller en avion à prendre, il était capable de célébrer la liturgie à 3 heures du matin avant d'aller prendre son avion. Vous voyez. C'est-à-dire que chez certains saints, la célébration quotidienne de la liturgie de Saint-Jean-Chrysostome a été vraiment indispensable. Bon, c'est des gens de haut niveau, ça veut dire qu'ils sont tous les jours capables de célébrer, d'être à ce niveau de conscience-là. Bon, c'est admirable. Bon, donc, la liturgie. Oui, ainsi, continue le typicon, c'est celle qui se célèbre le plus souvent pendant tout le cours de l'année liturgique, évidemment, et si également, elle est la seule liturgie qui se célèbre pendant toute la période du Pentecostaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la période du Pentecostaire? Je vous rappelle, c'est la période qui va de la Pentecôte, qui va de la fête de Pâques à la fête de tous les saints. Donc, c'est la grande période, les 50 jours qui suivent Pâques. Eh bien, la liturgie de Saint-Jean-Chrysostome, c'est la seule qui soit célébrée pendant toute cette période-là. Et puis, pendant la période de l'Octoèque, c'est-à-dire la période qui va de la Pentecôte, je m'étais trompé, pardon, au début du carême, enfin au dimanche du Fils prodigue, par exemple, elle se célèbre également tous les jours, avec, comme exception, 3 jours, ça c'est important quand même, bien noté, 3 jours dans lesquels on célèbre la liturgie selon Saint Basile, qui sont lesquels? La veille de la Nativité, c'est-à-dire le 24 décembre, Ajunul Nashteri Domnului. Donc la veille de la Nativité. Par exemple, cette année, cette année, ça tombe en semaine. Donc, quelquefois, ça peut se trouver même un dimanche. Hein. Mais là, par exemple, cette année, il y a une paroisse qui a demandé si on pouvait célébrer le soir ou le matin. Et on leur a répondu célébrer les deux. Donc, ils vont le 24 célébrer Saint-Basile, précédé des vêpres, on peut y revenir. Même en commençant tard, je pense qu'il faut commencer vers 19h, parce que c'est vraiment à l'heure des vêpres. Là, ça fait 19h, 21h30 à peu près. La liturgie de Saint-Basile précédée des vêpres, c'est magnifique. Et puis on va se coucher, et hop, et le lendemain matin, on revient à l'église, et on célèbre l'office des matines, et la liturgie selon Saint-Jean-Chrysostome, le jour de Noël. Voilà. Donc, un des jours où on célèbre en tout cas Saint-Basile, c'est ça. Légalement, le 1er janvier, pourquoi? Parce que c'est la fête de Saint-Basile. Donc, on célèbre la liturgie qui porte son nom. Et la veille de la théophanie, la veille du baptême. Donc, il y a au moins 3 fois où on célèbre Saint-Basile au lieu de Saint-Jean-Chrysostome pendant la période de l'Octoèque. Alors, donc, vous vous rappelez de ça, c'est assez facile à retenir, mais c'est à savoir. Et puis, donc, pendant le Grand Carême, la liturgie selon Saint Jean Chrysostome se célèbre seulement 8 fois, c'est-à-dire les 6 premiers samedis du Grand Carême. Non, on célèbre le samedi. On verra plus loin que dans le typicon, normalement les prêtres ont l'obligation de célébrer le samedi, alors, vous voyez. Avant, on en est loin, mais enfin, normalement, pendant le carême, donc les samedis de carême, on célèbre la liturgie le samedi matin, et c'est la liturgie de Saint Jean Chrysostome, c'est pas autre chose. D'accord? Et également, le sixième dimanche de carême, du grand carême. Qu'est-ce que c'est que le sixième dimanche de grand carême? Levez la main. C'est le dimanche des rameaux. Dominica Floridor. D'accord? Donc on célèbre Saint-Jean-Chrysostome ce dimanche-là et non pas Saint-Basile. Et puis donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on célèbre Saint-Jean-Chrysostome le jour de l'Annonciation, le 25 mars. Le 25 mars, donc là, pour se débrouiller, célébrer le matin, normalement, le matin du 25 mars. Bon. Voilà. Et on dit, quel que soit, c'est intéressant, in hoc si asceptumum arcadia, c'est-à-dire, quel que soit le jour de la semaine où se trouve le 25 mars. Alors ça pose quelques difficultés. Imaginez que le 25 mars tombe le vendredi saint, qu'est-ce que vous faites? Ah, alors c'est prévu. On reporte. On a dit que si l'Annonciation se trouve un des premiers, en l'occurrence avec un des premiers cinq dimanches du Grand Carême, et des jours où on devrait célébrer Saint-Basile, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va primer, c'est le triode, c'est-à-dire qu'on va célébrer Saint-Basile. Et ici, imaginez que le 25 mars tombe, c'est ça, si le 25 mars tombe un des dimanches de carême, pas les rameaux si possible, ça ferait beaucoup. Alors, l'Annonciation, le jour des rameaux, je ne sais pas si ça arrive, mais ça serait un peu compliqué. Enfin bon, un des dimanches de carême, et bien on va quand même célébrer Saint-Basile. Donc vous notez sur vos petits carnets, vous n'allez pas dire, ah ben c'est ça fait l'Annonciation, c'est Saint-Chrysostome. Non, c'est le triode qui prime, d'accord, pour respecter le nombre. Alors, voilà, de même, il faut savoir que quand l'Annonciation se trouve un des jours de semaine du lundi au vendredi inclus de la semaine d'une des semaines du Grand Carême. C'est intéressant, ça. L'idéologie de Saint-Jean Chrysostome est unie aux vêpres. Hein, est unie aux vêpres du jour suivant, c'est-à-dire du 26 mars. Alors, je vous prie de noter ça, parce que justement, chaque année, ça fait une confusion dans nos paroisses. Les gens... le 25 mars tombe en semaine de carême, bien sûr, et ce que je disais tout à l'heure était donc une erreur. On ne célèbre pas le matin. On peut célébrer le matin si on veut, mais c'est quand même l'office du soir. Et normalement, on devrait célébrer le 25 mars le soir, uni aux vêpres du 26, du jour qui suit. Et ça, c'est ça le typicon. D'accord ? Donc vous le notez bien sur vos petites tablettes également. Et c'est indiqué dans le ménologe du mois de mars, au jour du 25, hein, et c'est indiqué également dans le typicon de Saint-Marc Lasset, qui se trouve dans le triode, c'est indiqué dans le triode. Donc il y a deux indications, dans le triode et dans les ménés, qui insistent là-dessus, sur le fait que la fête de l'Annonciation pendant le Grand Carême, elle est toujours en Grand Carême, je crois, elle va tomber un des jours de semaine, on va célébrer ça, Jean-Chrysostome, mais uni aux vêpres, c'est-à-dire précédé des vêpres, hein, comme on le fait pour la liturgie de Saint-Basile dans les autres cas. D'accord? Maintenant, si vous voulez célébrer le matin, vous pouvez célébrer le matin, mais ce sera quand même sous cette forme-là. Voilà, donc ça c'est, vous voyez, il y a quand même des indications intéressantes concernant la célébration de la liturgie. Alors après ça, l'autre précision qui doit être apportée dans le typicon, c'est le fait qu'il existe des jours qu'on appelle les jours aliturgiques. Alors là, je viens de vous parler des jours liturgiques, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'un jour aliturgique? Ben, c'est un jour dans lequel on ne célèbre pas la liturgie, c'est-à-dire la divine liturgie. Ils ne sont pas aliturgiques au sens où il n'y aurait pas d'autres offices. Il n'y aurait pas de matine, pas de vêpres, pas de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas des jours où on ne fait rien, mais ce sont des jours dans les jours liturgiques, c'est des jours dans lesquels on n'a pas la bénédiction pour célébrer la liturgie, ni de Saint-Basile, ni de Saint-Jean-Chrysostome, ni même de, des dons présentifiés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, dans les monastères et dans les cathédrales épiscopales, comme ici à rue Jean de Beauvais, pendant la période de l'Octoèque, je vous rappelle que l'Octoèque, c'est la période qui va de la Pentecôte au dimanche du Fils prodigue, c'est-à-dire la plus grande période de l'année, pendant laquelle on suit l'ordre des huit tons. Vous savez, parenthèse, que l'Octoèque est presque abandonné pendant quelques périodes de l'année. Là, par exemple, dans l'avant-fête de Noël, il disparaît presque complètement, sauf le dimanche, et il est abandonné aussi pendant une bonne partie du carême de Pâques, sauf le dimanche. On chante quand même un peu de l'Octoèque, quand même le dimanche matin, pendant le carême. Mais, enfin, disons, pendant la semaine, en tout cas, l'Octoèque, on ne l'ouvre pas. On ne l'ouvre pas parce qu'il y a le triode, ou il y a autre chose, enfin, bon, mais il y a les textes du ménologe. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la période de l'Octoèque la période pendant laquelle on utilise ce livre liturgique, effectivement. Et, alors, donc, pendant la période de l'Octoèque et pendant la période du Pentecôtaire, c'est-à-dire qui va de Pâques à la Pentecôte, je vous rappelle, la Sainte Liturgie peut être célébrée tous les jours. Là, on parle ici des monastères et des cathédrales. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas ici, à rue Jean Beauvais, non, mais je sais, par exemple, à Paris, dans la cathédrale russe, rue Pétel, ils célèbrent la liturgie tous les jours. Et donc ça peut se faire, moi ça me paraît lourd, mais ils se débrouillent pour avoir, puis il y a plusieurs prêtres, il y a un prêtre qui fait une semaine, après c'est un autre prêtre, et dans les monastères c'est pareil, ils célèbrent tous les jours, pas dans tous les monastères, si vous voulez, je vois à la Sainte-Montagne, le monastère où j'ai été, on célébrait effectivement la liturgie tous les matins. Alors il fallait qu'il y ait plusieurs prêtres dans le monastère pour que ce soit quand même vivable, parce qu'il faut savoir qu'un prêtre ne peut pas célébrer la liturgie s'il ne se prépare pas. On va y venir, hein, ça, tout à l'heure, il y a les préparations pour la célébration, ça veut dire le jeûne alimentaire, ça veut dire principalement le jeûne alimentaire quand même, hein. Et il y a beaucoup de prières préparatoires. Donc, les prêtres ne peuvent pas célébrer tous les jours, sauf des saints prêtres comme Saint Jean de Kronstadt ou le patriarche Paul ou d'autres. Il y a beaucoup de saints prêtres, de saints évêques quand même. Hein. Voilà, donc normalement dans les monastères et les cathédrales, on peut en tout cas célébrer tous les jours. Mais pendant le temps du grand carême, elle se fait seulement le mercredi et le vendredi. Donc il s'agit à ce moment-là donc des dons présentifiés. Et à ce moment-là, on célèbre également le samedi, donc la liturgie de Saint Jean Chrysostome, sauf le grand samedi, le samedi saint, parce que le samedi saint, on célèbre la liturgie selon Saint Basile, comme vous savez. Mais là aussi, il y aurait besoin d'un commentaire, parce que la liturgie de Saint Basile, le samedi saint, c'est une liturgie qui est précédée des vêpres, et donc qui serait intelligent, en fait, de célébrer cet office en fin de journée du samedi. Et donc, il n'y a aucune célébration de la journée du samedi saint, sauf le soir. Mais dans la plupart de nos paroisses, je sais bien comment ça se passe, on célèbre Saint Basile précédé des vêpres à 10h du matin, par exemple. Mais c'est un peu dommage, parce que je crois que justement, l'esprit de cette célébration, c'est qu'il n'y ait rien, justement. Le samedi saint soit un jour absolument silencieux, et vraiment un jour aliturgique. C'est pas ce que dit le Typikon roumain, c'est moi qui le dis là. Qui soit vraiment un jour à liturgie, parce que le Christ étant au tombeau, c'est le silence qui règne dans l'église. Et puis, vers 5h du soir ou 6h, on va commencer les vêpres, les grandes vêpres, qui vont être suivies des rites de Saint-Basile. Ça va faire 5h, 5 et 3, 8, 5, de 5h à 20h ou à 21h, les rites de Saint-Basile. Bon. Et après ça, il y aura une petite pause, et puis on va commencer les matines, et puis la liturgie de Pâques, qui est la liturgie de Saint-Jean Chrysostome. Bon, ça va? Pas trop compliqué tout ça? Alors, faut quand même savoir ce qui se fait dans nos églises. Mais quelquefois, les fidèles ne se rendent pas compte, puisque comme tout est dit, à toute allure et à voix basse, la plupart des fidèles ne voient aucune différence entre la liturgie de Saint-Basile et la liturgie de Saint-Jean Chrysostome, par exemple. On ne peut pas s'en apercevoir, puisqu'ils n'entendent pas. Alors, donc tout ça pour vous dire que dans les monastères et les cathédrales, donc on célèbre enfin le plus possible en quelque sorte, hein. Et bien sûr tous les dimanches, tous les dimanches ou le dimanche. Bon, maintenant, dans les églises de Enori et de paroisse, les églises paroissiales, la Sainte Liturgie est officiée. Alors, ici, vous allez voir, tous les samedis et tous les dimanches de toute l'année. Et c'est même marqué ici, j'ai une note. Pentru obligația preoților de Enori de a săvârși liturghia în toate sâmbetele, vezi povestirile din liturghia. Donc, c'est une obligation. Alors, je dis ça pour mes collègues, je dirais pour moi-même. Nous devrions, nous les prêtres de paroisse, nous devrions célébrer tous les samedis matins, pas seulement tous les dimanches. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc, dans les églises de paroisse, c'est comme ça. Mais dans le cours de la semaine, en fait, on ne célèbre pas, on célèbre que les jours où il y a une fête, ou la fête d'un saint, ou une fête particulièrement importante, une des 12 fêtes. Oui. Donc c'est vrai que la règle, parce que si on parle du typicon, la règle pour les paroisses n'est pas de célébrer tous les jours de la semaine, elle est de célébrer le samedi et le dimanche, et en semaine, s'il y a quelque chose de très particulier, oui. Donc il y a des différences. Quand même, on fait dans le typicon, si vous voulez, fait une différence entre les églises cathédrales et les églises des monastères et les églises paroissiales. Alors, ce qui fait, ça explique aussi, je vous disais tout à l'heure qu'en Roumanie, il y a des gens qui ne célèbrent jamais en semaine, même pendant le carême, mais c'est parce qu'en fait, ils se croient dispensés de célébrer. Mais là, il y a d'autres paroisses, c'est pas dans le typicon, mais je l'ajoute, dans d'autres paroisses en Roumanie, pas Bucarest, mais dans les grandes villes de Roumanie, où les prêtres ne célèbrent pas la liturgie pendant la semaine, mais ils célèbrent par exemple l'acatiste. L'acatiste, où ils célèbrent l'office pour les malades, le masque ou le puits de l'onction. Donc il y a des paroisses qui fonctionnent bien en Roumanie, et on va souvent avoir un office de mercredi, un office de vendredi. Ce ne sera pas les prêtres sanctifiés, parce que si on n'est pas en carême, mais ce sera l'acatiste à la Mère de Dieu. Et le vendredi, par exemple, tous les vendredis, il y a des paroisses qui, tous les vendredis, célèbrent l'office pour les malades. Stuntul Maslu, tous les vendredis. Et il y a un monde fou, les gens viennent, ça se passe très très bien. Oui. Donc il y a quand même des paroisses, on pense à des grosses paroisses, ou des paroisses dans les grandes villes, qui ont une vie liturgique importante, sans, mais qui ne savent pas pour autant, la divine liturgie du Saint-Jean-Chrysostome. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, parce qu'on parlait des jours aliturgiques, hein, mais il y a quand même des jours dans le cours de l'année qui, d'après la tradition de l'Église orthodoxe, ne comprennent pas de célébration liturgique, ni même dans les cathédrales et dans les monastères. Donc, ce sont eux les jours aliturgiques. Alors, quels sont-ils? Eh bien, je vais vous le dire. je vais vous le dire tout de suite. Il s'agit des mercredis, du mercredi et du vendredi, de la semaine de l'étage. Donc c'est la première. Non, c'est la. Oui, c'est la semaine avant.
Avant le triode.
Oui, c'est la semaine avant le début du carême. Voilà, c'est la dernière semaine avant le dimanche du pardon, si je ne me trompe pas. Hein. Bon, mais donc il n'y a pas de célébration le mercredi et le vendredi, parce qu'on est dit aussi. Parce que dans les monastères, ce sont des jours de jeûne rigoureux, le mercredi et le vendredi, et donc on ne va pas célébrer parce qu'on jeûne totalement, et qu'on anticipe l'ordre de du grand carême. Il y a une sorte d'anticipation. Et c'est vrai que c'est ce mercredi-là, si je ne me trompe pas, c'est ce mercredi-là où on dit déjà après le Saint-Éphrem. Alors qu'on n'est pas encore dans le carême, mais on commence à la dire déjà le mercredi de la semaine de l'étage. Donc il y a une espèce d'anticipation du carême, et pour cette raison-là, le mercredi et le vendredi de la semaine de l'étage, il n'y a pas de liturgie, ni même de liturgie des présentifiés. Bon, donc voilà des jours aliturgiques. Vous notez, jour aliturgique, mercredi et vendredi de la semaine de l'étage. Ensuite, autre jour aliturgique, le lundi et le mardi de la première semaine du grand carême, parce que c'est lié, c'est ça vient de l'influence des monastères. Les moines dans les monastères jeûnent totalement la première semaine de carême, et en particulier, ils jeûnent totalement, c'est-à-dire ils, c'est pas exactement ça, mais ils jeûnent jusqu'à la 9e heure ou même jusqu'au vêpre. Enfin, ils jeûnent toute la journée et mangent le soir. Donc du coup, il n'y a pas de liturgie ce jour-là, mais il n'y a pas de liturgie. Ben, je parle du lundi, du mardi, de la première semaine, mais c'est ça. Il n'y a même pas de présentifié. Présentifié la première semaine de carême ne vont commencer que le mercredi. Mais le lundi et mardi, il n'y a rien du tout, parce que c'est jeûne total, et on va manger le soir, ou à la rigueur, à la 9e heure. D'accord ? Autre jour à liturgique, eh bien, on a déjà parlé, c'est le vendredi saint. Alors là, c'est rigoureux. Rigoureux. Je le dis quand même, parce que j'ai entendu une fois dire que les gens avaient célébré la liturgie le vendredi saint. Mais c'est n'importe quoi. Ça s'est jamais fait. Donc le vendredi saint, il n'y a pas de liturgie. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, c'est le jour de la mort du Christ sur la croix. Et donc c'est un jour de jeûne total aussi. Et beaucoup de fidèles des paroisses suivent ça. Puis nous tous, tous autant que nous sommes, dans la paroisse des moines pour ça, on suit la tradition du vendredi saint et jeûner ce jour-là. Enfin, bon. Ensuite, encore un jour à liturgique, c'est le dernier que vous allez noter, c'est le vendredi qui précède la nativité, Noël, si vous voulez, et le vendredi qui précède le baptême. En particulier les années où ces deux fêtes se trouvent un dimanche ou un lundi. Vous dites, oui, je me suis bien exprimé. Imaginez que Noël soit un dimanche, ou que Noël soit un lundi, et bien le vendredi qui précède sera un jour aliturgique. Et qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là? On va célébrer un office qu'on appelle l'office des heures royales. Comment ils appellent ça? Voilà, Chasurile Impretest. Les heures royales, oui, mais c'est ça en français, ça. Et alors, donc, le vendredi qui précéderait Noël, si Noël était un dimanche ou un lundi, ce vendredi-là, il n'y aurait rien du tout, comme c'est derrière ni Saint-Jean-Chrysostome, ni... Ben non, ça peut être que ça, de toute façon, parce que Noël, il n'y a pas de présentifié avant Noël, et il n'y a pas de présentifié avant le baptême du Christ. Mais bon, donc il n'y a pas Saint-Jean-Chrysostome, quoi, bon. Il n'y a pas de liturgie le vendredi qui précède Noël ou le baptême du Christ, si c'est Noël et le baptême sont un dimanche ou un lundi. Voilà, c'est ça la règle, disons, mais ça s'explique aussi. Oui, parce que, c'est ça, comme je viens de dire, le vendredi qui précède est un vendredi de préparation de la fête, hein, et on lit les heures royales, comme je viens de dire, et les autres offices quotidiens, mais sans la liturgie. Donc, vous notez ça également, parce que c'est des questions qu'on va poser aux étudiants. Quels sont les jours à liturgie qu'il faudra qu'ils répondent, hein. Bon. Voilà. Alors, on a encore un petit peu de temps. Dans le Typicon, vous voyez, quand même, il donne des indications précises sur ce qu'on doit suivre pour être dans l'unité de l'Église, comme je l'ai dit, faire ce que fait l'Église. Nous ne sommes pas dans l'Église pour faire nos caprices, nous sommes dans l'Église pour faire ce que fait l'Église. Alors c'est assez important cette question-là, peut-être que je voulais quand même faire cette parenthèse que j'ai pensée cette semaine, cette notion-là, dire on célèbre ce que l'Église célèbre. Ça explique, si vous voulez, le fait que nous ne pouvons pas participer à des offices œcuméniques, hein, par exemple. Vous voyez, parce que moi, je ne sais pas, à mon propre niveau, si vous voulez, moi, ma responsabilité de prêtre de l'Église orthodoxe, c'est de célébrer les offices de l'Église orthodoxe, pas célébrer autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on est contre, ça ne veut pas dire qu'on méprise les catholiques et les protestants, ce n'est pas ça la question du tout. Mais moi, je ne suis pas habilité à célébrer autre chose que ce que l'Église orthodoxe célèbre. Donc, s'il y a une rencontre œcuménique, ben, j'y vais, je peux assister, je peux éventuellement lire un texte biblique, un évangile, etc. Mais c'est tout, je ne participe pas au rite qui est célébré là, parce que ce n'est pas le rite de l'Église orthodoxe. Et je ne dis pas les prières qui sont là, parce que ce ne sont pas les prières de l'Église orthodoxe. Moi, je suis ordonné prêtre pour dire les prières de l'Église orthodoxe, pas autre chose. Et ça, la rigueur du typicon. Et c'est très très important, ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... On ne peut pas oui, c'est ça, on est là. On dit, nous sommes là pour faire connaître la tradition de l'Église, pour... nous sommes au service de la tradition de l'Église, nous ne sommes pas au service de négociations entre les chrétiens. Ce n'est pas notre conception de l'œcuménisme. Notre conception de l'œcuménisme, c'est de témoigner la tradition orthodoxe devant nos amis catholiques ou protestants. Ce n'est pas de faire des arrangements liturgiques avec eux, que eux en fassent entre eux. Ça ne veut pas dire que ça ne nous regarde pas, d'une certaine façon, mais nous ne sommes pas partie prenante de ces arrangements. Alors, j'espère que ça choque personne. Il y a des gens qui vont trouver que c'est une position un peu dure, mais à mon avis, une position sur laquelle il ne faut pas revenir, parce qu'autrement, on va perdre la confiance des orthodoxes les plus exigeants. Et vous savez qu'il y a dans les orthodoxes des courants très, très, très sérieux, très acribiques, et qui, justement, refusent de communier avec d'autres orthodoxes, parce que ces autres orthodoxes participent à des célébrations œcuméniques. Oui, donc ça, je pense qu'ils ont quand même raison. Je pense qu'ils ont quand même raison. Nous n'avons pas, nous, en tant qu'orthodoxes, à participer à des célébrations œcuméniques. C'est pas notre travail. Notre travail est de célébrer les offices du typicon de notre Église et de le célébrer bien, d'inviter les autres à y assister, les faire connaître, expliquer, c'est-à-dire faire connaître la tradition orthodoxe. C'est ça notre travail. Oui. Bon, encore une petite remarque qui est faite ici, puis ça on va arriver à la conclusion, je pense, pour quand même lire ce typicon ensemble, et le typicon éprouve le besoin d'insister sur l'unité de la liturgie dans les jours liturgiques. Alors ça, c'est assez important, l'unicité, c'est-à-dire que, d'après la tradition de l'Église orthodoxe, un prêtre ne peut célébrer qu'une seule liturgie par jour. Alors ça aussi, on va le redire, hein, parce que... Alors, je sais bien comment ça se passe, moi j'ai des amis qui sont prêtres, pas en Roumanie, mais en Russie, en Pologne, je ne sais pas où, les endroits où il n'y a pas de prêtres. Donc le prêtre va célébrer à 8 heures dans telle église, après ça il va prendre sa voiture, il va les célébrer à 10 heures dans une autre église, et éventuellement il va les célébrer à midi dans une troisième église. Donc ce prêtre que je connais, il aura célébré la déménitologie 3 fois ce matin-là. Mais c'est dans des églises différentes, c'est dans 3 villages différents. Donc ce n'est pas la même chose. Ce qui est interdit, alors vraiment rigoureusement, c'est de célébrer plusieurs fois la déménitologie sur le même hôtel, dans la même église. Parce que ça devient vraiment... Ça devient du... Je ne sais pas comment dire... Du consumérisme liturgique à ce moment-là. Donc ça, c'est assez clair. Hein. Donc un prêtre ne peut célébrer qu'une seule liturgie par jour. Et plusieurs liturgies successives ne peuvent être célébrées dans le même, sur le même hôtel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que même s'il y a plusieurs prêtres, par exemple, dans une paroisse, et on ne peut pas avoir père Bidule qui célèbre à 8 heures, père Machin qui célèbre à 10 heures, et père Trucmuche qui célèbre à midi. Il ne peut pas y avoir 3 célébrations de la liturgie. Pourquoi? C'est très important. Il y a une raison. C'est qu'en fait, on ne veut pas fragmenter la communauté. Le mystère de l'Église est un mystère d'unité. C'est l'Église qui célèbre, c'est la communauté de l'Église, la communauté paroissiale en l'occurrence, qui célèbre. Si on célèbre 3 fois, c'est-à-dire qu'on fragmente, on fracture, si vous voulez, l'unité de la communauté. Alors vous avez les gens qui vont célébrer à tel moment, ils se verront jamais, ils ne se rencontreront jamais. Se rencontreront jamais parce que ils viennent célébrer des moments différents. Mais de toute façon, la question ne se pose pas dans l'Église orthodoxe, la question ne se pose pas, elle se pose en dehors de l'Église orthodoxe, dans certaines paroisses. Alors, il faut savoir que quand même, je connais une Église orthodoxe à Chypre, où il y a, et même ailleurs, où il y a 2 hôtels. Les constructeurs sont des petits malins, ils ont fait une église avec un hôtel central, et puis un hôtel à gauche, même quelquefois un hôtel à droite, donc il y a 3 hôtels dans la même église. Et du coup, il y a quelquefois plusieurs liturgies le même jour, mais sur des autels différents et présidées par des prêtres différents. Mais c'est un peu une manière de tourner le canon. Je ne trouve pas que ça soit très, très bon pour l'âme. Parce que c'est un peu comme, vous savez, comme les nourritures de carême, on arrive à satisfaire sa gourmandise en mangeant quelque chose où il n'y a rien d'animal, pas de beurre, pas de laitage et tout, mais enfin, on arrive à être gourmand quand même. Donc c'est des façons de faire, si vous voulez, qui sont... Enfin bon, on n'est pas dans l'esprit juste de l'Église, je pense. Donc toujours est-il que, alors ici, en note 46... Oui, la note ici, ça vient d'un autre, de Liturguière, c'est-à-dire le livre de la liturgie édité à Bucarest en 1974. On dit que, donc, le prêtre doit savoir qu'il ne célèbre qu'une liturgie par jour sur un seul autel. Une seule liturgie peut être célébrée, etc. Et cette unité du Saint-Sacrifice, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est l'unité du Saint-Sacrifice signifie... seulement la mort unique du Christ qui est mort une fois pour toutes pour nous et sa passion unique peccato dato et redato pentru noi qu'il a souffert une fois pour nous, une seule fois pour nous. Donc il y a quelque chose, c'est intéressant, c'est le mystère de l'unicité, l'unicité du sacrifice du Christ, l'unicité de la passion. Il n'y a donc pas de répétition. Et le fait qu'on célèbre tous les jours, c'est jamais une répétition. Chaque jour est unique lui-même. Et donc, le prêtre doit avoir dormi, il doit avoir jeûné la veille, il doit avoir marqué la rupture d'un jour à l'autre pour célébrer. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'avais célébré dans la nuit et j'étais invité dans une paroisse roumaine à venir chez eux le jour de Noël. Et ils attendaient ce que je célèbre avec eux. Et je me rappelle l'archevêque qui était là, l'archevêque qui est décédé maintenant, je lui ai dit, écoutez, j'ai célébré cette nuit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous me bénissez pour célébrer quand même avec votre prêtre? Il m'avait dit, est-ce que vous avez dormi? Alors je dis, oui, je me suis couché, j'ai dormi 3 heures. Il a dit, bon alors ça va, vous pouvez célébrer. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui marque une vraie césure entre un jour et un autre, entre un jour liturgique et un autre jour liturgique. Parce que ce qu'on est, c'est le mystère d'unité quand même, l'unité du jour qui exprime l'unité de la passion du Christ. D'accord? Voilà, et donc on va conclure peut-être là-dessus. Je regarde s'il y avait d'autres. Ah oui, après ça c'est la question de... Mais c'est pour un autre paragraphe, c'est la question de l'heure de la célébration. Ça, on l'abordera la semaine prochaine. Donc, on termine avec ça. Donc on a vu aujourd'hui, ça c'est les jours liturgiques, les trois liturgies principales de notre Église. Et le caractère, c'est pas l'unité, c'est l'unicité, le caractère unique de la liturgie dans les jours liturgiques. C'est pas l'unité, hein, c'est l'unicité, c'est pas exactement la même chose. Voilà, j'espère que c'est intéressant. De toute façon, ça fait bien de réviser tout ça pour, dans nos paroisses, suivre la tradition, suivre ce que fait l'Église. Vous allez voir que le typicon est très très rigoureux et que c'est une bonne leçon pour nous. Quelquefois, nous sommes. Sommes un petit peu dans l'arbitraire, parce que ça nous arrange, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est fatigué, parce que les fidèles ne sont pas nombreux, parce qu'il n'y a personne pour chanter, parce qu'on n'a pas de diacre, je sais bien. Mais bon, on fait ce qu'on peut, mais il faut en tout cas tendre à respecter le typicon. Moi, je suis pour ça, personnellement. Parce que si on ne respecte pas le typicon, après ça, on va tomber dans un système d'église où on se référera à une autorité supérieure. J'ai remarqué ça. Dès que les gens ne suivent plus le typicon, ils disent « on va demander à l'évêque ». Alors du coup, ça veut dire qu'on demande à l'évêque d'assurer l'unité de l'Église, alors que ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'évêque, c'est de l'intégrer dans sa vie, d'enseigner, d'attester l'unité, mais pas de la garantir, pas de la remplacer. Il la garantit, si vous voulez. Mais il ne la garantit pas plus que le fidèle moyen. Toute personne qui suit la tradition garantit l'unité de l'Église. Mais il ne faut pas transformer l'Église en système hiérarchique. Faites attention. Voilà, merci à tous et merci.